10 minutes chronique. En 2021, deux livres de Déborah Lévy ont paru dans leur traduction française aux éditions du Sous-sol. Ce que je ne veux pas savoir est le coût de la vie. Un troisième a suivi en 2021, L'état des lieux. Aujourd'hui, première partie d'un cycle consacré à Déborah Lévy, une autobiographie en mouvement. Déborah Lévy est née en 1959 en Afrique du Sud, à Johannesburg. En 1968, ses parents émigrent en Angleterre, à Londres, où elle vit encore aujourd'hui. Elle a écrit une douzaine de pièces de théâtre et autant de romans et recueils de nouvelles. C'est avec le deuxième livre de sa trilogie autobiographique qu'elle a atteint la célébrité en 2013. J'ai rencontré Déborah Lévy l'année dernière au cours du festival Le Goût des Autres. Une femme dont la personnalité m'a immédiatement conquise, une femme impressionnante par sa taille, sa corpulence, sa féminité et cette assurance que l'on ressent immédiatement chez elle. Pourtant, dès qu'elle parle, rien en elle n'est arrogant ou affecté. Et en l'écoutant, on comprend que sa simplicité est l'aboutissement d'une liberté qu'elle a gagnée, le fruit d'une expérience féministe personnelle, dénuée de toute agressivité, nourrie des leçons que la vie lui a apportées. Cet équilibre est le résultat des épreuves qu'elle a surmontées et de sa réflexion. À lire son œuvre, on comprend qu'écrire pour elle n'est pas un acte féministe en soi. Cependant, ce que l'on y trouve est le récit d'un parcours féminin où la liberté s'épanouit et s'affirme au fil du temps, malgré les pièges. Pour Déborah Lévy, écrire sur sa vie n'est pas écrire une histoire. Elle ne se livre pas à l'exercice habituel de l'autobiographie. Son écriture vagabonde correspond au fil de ses pensées, sans chercher à puiser dans ses souvenirs, mais dans l'instant présent. Elle restitue un dialogue intérieur, un dialogue intime, celui qu'elle se raconte. C'est en cela qu'elle nous touche. Voici ce qu'elle a dit au Havre ce 22 janvier 2022, pendant sa venue au festival. « Quand j'ai écrit tout ce que je ne veux pas savoir, j'ai commencé par cette phrase. Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée, que je me rebellais contre mon sort et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, ce fut, semblait-il, sur les escalators de gare que je pleurais le plus souvent. Une fois que j'ai écrit cette première phrase, je me suis demandé mais qui est cette personne, ce jeu, pourquoi pleure-t-elle? C'est en continuant que j'ai compris qu'on est tous capables d'écrire notre vie. Le plus difficile, c'est de ressentir profondément ce qu'on a vécu, et si on y parvient, le résultat ne sera jamais ennuyeux. Je crois qu'on est tous en dialogue avec les fantômes, de notre propre famille ou les fantômes de l'histoire, et ce sont des conversations qui sont particulièrement intéressantes pour la littérature. Mon obsession, ce sont ces conversations qu'on a avec soi-même quand on est seul, seul dans le noir, seul dans le bus ou dans le bain. La manière dont on se dit la vérité quand on se raconte nos véritables pensées, seul avec soi-même. Ce qui n'existe pas seulement dans la littérature, on fait tous ça, tout le temps, et c'est une inspiration incroyable. On peut puiser tous ces possibles-là dans l'imaginaire. On peut aussi, au lieu de trouver ça sublime, s'en moquer, mais moi je ne m'en moque pas.
For me, that is an incredible inspiration. You either believe in people's imagination as something sublime and encouraging, or you don't care. But I do care.
Concernant le lien entre le passé et le présent, je pensais d'abord écrire cette autobiographie en mouvement de façon chronologique. Partir de l'enfance, puis l'adolescence, puis l'âge mûr. Mais cela n'avait pas de sens pour moi. On part forcément de l'instant présent, c'est-à-dire qu'on part de ce moment-là, parce que le passé vit toujours dans le présent. Nous tous portons en nous notre enfance, et elle peut être très vivante en chacun d'entre nous. L'idée que le passé et le présent seraient des choses séparées ne correspond pas du tout à la manière dont ils sont liés à notre existence. Et c'est une chose que j'avais envie d'affirmer à travers la littérature. Le temps, C'est le grand défi de la littérature, mais c'est aussi le plus intéressant. Ce que je ne veux pas savoir, extrait. Ce printemps-là, alors que ma vie était très compliquée, que je me rebellais contre mon sort et que je ne voyais tout bonnement pas vers quoi tendre, ce fut, semblait-il, sur les escalators de gare que je pleurais le plus souvent. La descente se passait bien, mais quelque chose dans mon immobilité et le mouvement ascendant provoquait cette réaction. Comme surgit de nulle part, les larmes coulaient de mon corps, et le temps que j'arrive au sommet et sente le souffle du vent, je devais vraiment prendre sur moi pour arrêter de sangloter. À croire que la vitesse de l'escalator, m'entraînant dans son ascension, était l'expression physique d'une conversation que j'entretenais avec moi-même. Je pris une décision. Si les escalators étaient devenus des machines douées d'une ardente émotivité, un système me conduisant vers des lieux où je ne voulais pas me rendre, pourquoi ne pas acheter un billet d'avion pour un lieu qui m'attirait vraiment ? 3 jours plus tard, je glissais mon ordinateur portable flambant neuf dans sa housse et m'envolais pour Palma de Majorque, assise à la place 22C, côté couloir. Pendant le décollage, je m'aperçus qu'être échoué entre ciel et terre revenait plus ou moins à emprunter en escalator. Johannesburg, 1964. Il neige sur l'Afrique du Sud en pleine apartheid. Il neige sur un zèbre et il neige sur un serpent. Il neige sur les lunettes de mon père et pendant un moment, je ne vois plus ses yeux. J'ai 5 ans et je n'ai vu la neige que dans les livres illustrés. Mon père me prend par la main et nous descendons les marches de la véranda rouge pour rejoindre le jardin et observer notre pêcher de plus près. Il est couvert de cristaux de glace. Nous allons faire un bonhomme de neige, même si nous n'avons ni gants ni écharpe assez chaude, peu importe. Peu importe, dit papa, allons-y, ce n'est pas tous les jours qu'il neige en Afrique. Cette nuit-là, alors que j'étais couchée, l'unité spéciale des services de la sûreté frappe à la porte de notre bungalow. Ils cherchent mon père et lui disent de faire sa valise. 2 des policiers fument des cigarettes dans le jardin, sous le regard du bonhomme de neige aux yeux ronds et creux. La valise que mon père prépare est très petite. Est-ce que ça veut dire qu'il reviendra bientôt ? Les hommes ont leurs grosses mains posées sur ses épaules. Papa essaie de me sourire. Un sourire comme celui du bonhomme de neige qui remonte aux commissures. Voilà que les hommes le font sortir au pas de course, ces hommes dont je sais, parce que j'ai surpris une conversation entre papa et maman à leur sujet, qu'ils torturent des gens et qu'ils ont parfois des croix gammées tatouées sur les poignets. Une voiture égarée devant la maison. Les hommes parlent avec un accent. La voiture blanche s'éloigne avec mon père à l'intérieur. Je lui fais signe, mais lui non. Quand je vais dans le jardin en pyjama, je pose une question au bonhomme de neige. Je lui parle comme d'autres parlent à Dieu. Je lui parle dans ma tête et il me répond « Qu'est-ce qui va se passer ?» Le bonhomme de neige me dit « Ton père va être jeté au fond d'un donjon et torturé et il hurlera toute la nuit. » Et tu ne le reverras plus jamais. » Je savais que mon père arriverait avec maman dans une voiture de la prison centrale de Pretoria. Mais je n'étais plus trop sûre de savoir à quoi il ressemblait. Pour m'assurer de le reconnaître, j'ai pris sur mes genoux la photo en noir et blanc que ma mère gardait près du téléphone dans le couloir sombre. La photo, qui avait désormais presque 5 ans, représentait le père qui m'envoyait son amour dans des lettres et des messages. Une petite voiture rouge a tourné à gauche au terrain de golf et a fait une embardée dans notre rue. Mes orteils se sont crispés dans mes chaussures en cuir verni et j'ai attendu. La portière s'est ouverte. Un homme a jailli du véhicule et a couru vers nous. Il n'a même pas attendu que la voiture s'arrête. Nous savions qui c'était et je ne me suis pas donné la peine de regarder la photo sur mes genoux. Papa, le chat est mort pendant que tu étais parti. Il me serre la main entre ses doigts froids. C'est agréable de se faire de nouveau appeler papa. 2 mois plus tard, nous quittions l'Afrique du Sud pour le Royaume-Uni. Angleterre, 1974. À 15 ans, je portais un chapeau de paille noir dont le bord était percé de trous carrés et j'écrivais sur des serviettes en papier dans la gargote près de l'arrêt de bus. J'avais une vague idée de la façon dont les écrivains étaient censés se comporter parce que j'avais lu des livres sur des poètes et des philosophes français qui buvaient des expressos dans des cafés pendant qu'ils écrivaient combien ils étaient malheureux. Il n'y avait pas beaucoup de cafés comme ça au Royaume-Uni à l'époque et certainement aucun à West Finchley. Majorque. J'avais une vue, j'avais un bureau sur lequel écrire. Il faisait bien chaud dans la chambre. 3 grosses bûches se consumaient dans la cheminée. Des bûches supplémentaires avaient été joliment entassées les unes sur les autres dans un panier juste à côté. Il faisait si chaud dans la chambre que je savais que le bois devait brûler depuis un certain temps. Maria était partie à la hâte, au milieu d'une tempête de neige. Se désintéressait-elle du monde qu'elle s'était fabriqué ici, dans les montagnes ? Je songeais que Maria était comme moi, en fuite, au XXIe siècle, de même que George Sand, qui s'appelait également Amantine, était en fuite au XIXe siècle, de même que Maria, qui s'appelait également Zama, cherchait un lieu où se remettre et se reposer du XXe siècle. Nous fuyons les mensonges cachés dans le langage de la politique, les mythes sur notre caractère et le but de notre existence. Nous fuyons aussi nos propres désirs, sans doute, quels qu'ils fussent. Mieux valait en rire. Cette façon que nous avons de rire, de nos propres désirs, cette façon que nous avons de nous moquer de nous-mêmes pour devancer les autres, cette façon dont nous sommes programmés pour tuer, nous tuer, mieux vaut ne pas y penser. Retrouvons-nous le 26 mars pour le cycle consacré à Deborah Lévy, 2e épisode, Le coût de la vie.